Voilà, c'était donc le beau lac de Bâle. Je vous rappelle que vous suivez un programme avec les candidates et candidats. Erika de Berpoli, malheureusement malade, n'a pas pu nous rejoindre. Mais tout à l'heure, on recevra un représentant du parti anti-magouille. Pour l'instant, une petite question. De qui est cette citation ? Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Ça a trait un peu à la campagne politique actuelle, la campagne électorale. Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Qui a écrit cela ? Notre numéro de téléphone reste le même. C'est toujours le 329 23 45. 329 23 45. Vous voulez savoir qui chantait ? C'était les Crewberries. Et on a reçu une bonne réponse par téléphone. Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, comment ça va de si bonne heure le matin ? Enfin, je pense que c'est de si bonne heure, non ? Il est bientôt 8h.
Pour moi, c'est de bonne heure.
Ah, c'est de bonne heure.
Je suis retraité.
Ah, voilà. Quand on a travaillé longtemps, on est content de pouvoir faire un peu la grasse matinée.
Exactement.
Oui.
Surtout par des jours gris comme ça.
Oui, ah oui. C'est vrai, ce brouillard opaque, hein, c'est
oui.
Vraie journée de novembre.
Tout à fait.
Dans quelle région du canton vous trouvez-vous ?
À Genève, Saint-Jean.
À Saint-Jean, tout à fait. Votre nom ?
C'est Privat.
Oui. Et vous écoutez nos émissions ?
Je écoutez, j'ouvrais la radio quand j'ai écouté votre citation, puis je me suis dit, mais celle-là, je la connais bien.
Ah oui?
Voilà, alors je vous ai téléphoné tout de suite, j'ai le téléphone à côté, alors voilà.
Pourquoi, vous avez fait du théâtre?
Non, pas du tout.
Non?
Pas du tout.
Alors vous l'avez, vous l'avez trouvé...
Disons que c'est une maxime que je prenais assez pour moi.
Ah bon? Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage.
Exactement, oui.
Ouais.
Du reste, je l'avais affiché au-dessus de mon bureau.
Ah oui? C'est vrai que c'est assez sage.
C'est assez sage et ça évitait bien des commentaires.
Oui. Alors, quel en est l'auteur?
Sacha Guitry,
oui. Il en a écrit bien d'autres.
Et oui.
Et il nous a bien amusés.
Exactement.
Oui. Vous vous intéressez un petit peu à la vie politique?
Un peu, oui, bien
oui.
sûr.
Oui.
Bien sûr, comme vieux Genevois.
Vous ferez partie de ceux qui iront quand même élire, ou bien?
C'est déjà fait.
Ah, c'est déjà fait. Vous n'êtes pas dans le camp des abstentionnistes?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Et vous le faites par correspondance, ou bien?
Par correspondance, oui.
Oui, c'est quoi? Ça simplifie quand même bien les choses.
Ah, tout à fait. C'est une très bonne chose.
Puis on a vu que ça a provoqué quand même une petite augmentation de la participation au scrutin. Enfin, pas énorme, parce qu'on aurait pu imaginer qu'en n'ayant plus qu'à envoyer son...
Une chose,
oui.
Que l'envoi des enveloppes soit pas gratuit. Qu'il fasse payer le port.
Ah, voilà, bien sûr. Bien sûr, il faut penser à la poste.
On se groupe plusieurs pour mettre dans une seule enveloppe.
Oui, oui, oui. Eh ben, écoutez, j'espère qu'à la chancellerie, ils écoutent notre programme et qu'ils ont retenu votre... Bien sûr, les caisses de l'État étaient en vide, il faut bien que quelqu'un paye le timbre, hein, c'est ça.
Oui, mais enfin, toute la publicité qu'on fait, etc. et tout, la paperasse, je crois qu'on pourrait limiter aussi un petit peu.
Oui. Bien, alors écoutez, on vous souhaite un réveil tranquille.
Oui, c'est gentil, merci.
Et puis, on vous enverra aussi un petit souvenir de cette émission.
Très bien.
Alors, bonne journée.
Merci, pareillement. Bonne journée, au revoir.
Alors, Pierre Luyet, notre série d'émissions qui se terminera demain, nos émissions matinales, se poursuivra lundi, puisqu'il y aura un débat radiodiffusé en direct, mais c'est surtout un débat public.
Oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, on a reçu les candidats les uns après les autres. Nous avons posé des questions de journalistes à ces candidats, et chacun a pu répondre... Mais maintenant, nous aimerions instaurer un vrai débat. D'abord entre les candidats, donc ils seront tous présents. Ils seront tous présents à l'université Bastion, à l'OLAD, l'université Bastion. C'est donc l'ancien bâtiment de l'université. Et ça, entre 20h et 21h, lundi prochain.
Voilà, donc lundi, 20h, Unibastion.
Exactement. Et bien sûr, il est important que les candidats rencontrent aussi le public. Alors, nous attendons un public qu'on espère nombreux avec des questions parce que cette fois, ce sera le public qui sera la vedette de cette émission qui sera donc retransmise de nouveau sur cette même fréquence lundi.
Et 105.6.
Exactement. Et nous espérons que nous aurons un public nombreux, un public attentif, un public légèrement piquant pour que les candidats puissent répondre aux électeurs et électrices de ce canton.
Voilà, donc rendez-vous Unibastion lundi 20h, un débat organisé par Radio Suisse Romande avec la tribune de Genève. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr le jour des résultats, c'est-à-dire le dimanche 16, la Radio Suisse Romande s'installera, non pas Unibastion,
mais à Limaille.
Avec tous ceux qui dépouilleront et on suivra bien sûr d'heure en heure le dépouillement avec un rendez-vous spécial déjà entre 18h15 et 19h.
Et oui, on espère déjà là annoncer la composition du gouvernement, même avoir les premières tendances de ce gouvernement.
Alors on peut dire qu'il y a du suspense et il y en aura cet après-midi là, ça vaudra la peine d'écouter la radio parce que vraisemblablement quelques-uns des conseillers d'État seront assez rapidement élus dans l'après-midi. En revanche, pour avoir la composition définitive, savoir si c'est la droite ou la gauche qui l'emporte et savoir quelle sera exactement l'attribution des sièges. Il faudra attendre vraiment la fin de l'après-midi.
Oui, parce que c'est ça l'enjeu de cette élection, c'est que cette fois, il n'y aura pas de monocolorisme naturellement, mais on ne sait pas encore quelle sera cette majorité. On annonce pour l'instant dans les sondages une majorité de droite au Conseil d'État, mais rien n'est dit encore parce que les différences sont tellement faibles que effectivement on peut avoir une majorité de gauche au Conseil d'État, ce qui serait extrêmement important et extrêmement intéressant.
Voilà, donc abstentionnisme interdit.
Ah oui,
dans cette campagne, je crois que ça vaut la peine de participer à cette élection.
Pourquoi? de pire quand le meilleur devrait suffire? Pourquoi se dire qu'aimer c'est souffrir? S'arroser de l'or ne fait pas grandir. Ça tue l'amour, ça tue la vie. Faut pas se noyer dans un verre d'eau. Ça tue l'amour, ça tue la vie. Ça tue l'amour, ça tue la vie. C'est facile d'apprendre à pardonner, mais pour cela il faut céder. À trop vouloir se protéger, on oublie qu'il faut s'aimer. Ça tue l'amour, ça tue la vie. Ça tue l'amour, ça tue la vie. Ton regard m'accuse, à t'éveiller tu te refuses. Ouvre les yeux, il n'est pas trop tard. J'ai encore un couplet dans le tiroir.
J'entends les cloches, c'est déjà les cloches de
la victoire, mais on ne sait pas de qui.
Alors, tout ça pour vous dire que vous êtes sur 105.6, que vous suivez un programme politique depuis lundi, consacré bien sûr aux élections genevoises, qui est repris d'ailleurs par le réseau câblé de Genève. Et puis, que demain, ce sera notre dernière matinée ensemble, toujours avec des questions de la tribune de Genève, avec des petits jeux, des prix à gagner. Et puis avec des invités, il y aura Carlo Lambrecht du Parti démocrate chrétien qui sera là. Il y aura Guy-Olivier Segond, candidat radical, bien sûr. Et puis, on espère, si tout va bien, de retrouver, avec sa voix, Erika de Berpoli. Hein, parce que, je sais pas, un problème de voix, c'est toujours délicat dans une campagne électorale. Tout ça pour vous dire que vous suivez un programme qui est préparé par Sylvie Lamblet, par Marianne Herny, par Pierre Luyet, par Francis Baudère et Daniel Favre qui vous tiennent compagnie, avec des musiques, des chansons choisies par Anne-Marie Hurek. Et puis, en coulisses, bien sûr, pour réaliser toutes ces séquences, Philippe Messerli et Serge Fernet. Pour l'instant, vous écoutez Radio Suisse Romande, la première. On rejoint la rédaction centrale. Il est très précisément 8h.
Pierre Bavaud.
Quant à Berne qu'à Bruxelles, on insiste ce matin sur le fait que le dialogue n'est pas rompu. Il n'empêche, les faits sont là, envolés depuis hier l'espoir de voir les négociations bilatérales aboutir avant la fin de l'année. Près de 3 ans après leur ouverture, ces négociations butent toujours sur la question des transports. L'Union européenne juge insuffisante la dernière offre suisse en matière de taxes poids lourds. 410 francs pour un 40 tonnes de balakiasso, c'est encore trop cher. Mais si l'Europe dit non à la Suisse, c'est parce qu'en fait elle est divisée. C'est l'explication avancée par Moritz Leuenberger, le chef du département fédéral des transports.
La raison la plus probable, c'est que les positions à l'intérieur même des 15, c'est-à-dire entre les États de l'Union européenne, sont à ce point divergentes qu'elles rendent pratiquement impossible la convocation d'un Conseil des ministres extraordinaire d'ici quelques semaines. Il est aussi possible que la fiscalité sur le transit alpin, telle que la propose la Suisse, il est possible que cette fiscalité ne puisse pas être acceptée par une majorité des États membres de l'Union. Mais nous n'en savons rien officiellement. À ce propos, nous attendons toujours une réponse à l'offre du Conseil fédéral du 10 octobre. De plus, et j'insiste sur ce point, nous attendons aussi que la Commission de l'Union européenne adopte une position clairement soutenue par une majorité des 15. Que cette proposition nous plaise ou non, c'est une autre question, mais c'est uniquement à cette condition que les négociations pourront reprendre.
Des propos recueillis par Pierre Anchoffa.
Et réaction en Suisse à cette décision européenne, si le regret est unanime, on se déclare plus ou moins surpris. En fait, seul le Parti Socialiste se dit pas vraiment surpris par cette décision. Décision qui porte un coup à la bonne volonté du peuple suisse. Ça, c'est ce qu'estime le Parti démocrate chrétien.
Révision de la loi sur le travail, le Conseil fédéral prend le taureau par les cornes.
Constatant que patrons et syndicats font du surplace dans leurs discussions, le Conseil fédéral a remis hier un rapport à la commission du Conseil national chargée de plancher sur la nouvelle loi. Et dans son projet, le gouvernement tient largement compte du rejet populaire de décembre dernier. Pierre-Alexandre Joie.
À 2 contre 1, le peuple suisse l'a dit clairement l'an passé, le travail de nuit doit être compensé. Fort de cet enseignement, le Conseil fédéral donne son feu vert à une nouvelle mouture de la loi sur le travail. Le gouvernement propose une compensation du travail de nuit à raison de 10% en heures de repos supplémentaires. Autre point clé, le travail de jour durera de 6 à 20 heures et non pas 23 heures comme le prévoyait la loi rejetée en 1996. Quant au nombre des heures supplémentaires normalement exigibles, il tombe de 220 à 130 par année. Enfin, le gouvernement propose de biffer la possibilité pour les commerces d'ouvrir 6 dimanches par an. Concrètement, le Conseil fédéral estime qu'il est temps de passer aux actes, inutile de soumettre le projet à consultation. Reste à savoir si les partenaires sociaux vont trouver un terrain d'entente. En septembre, l'Union suisse des arts et métiers avait claqué la porte des négociations. Tout l'art du Conseil fédéral consiste désormais à rétablir le dialogue entre patrons et syndicats.
La FRC salue la volonté du Conseil fédéral de mieux protéger les consommateurs des risques du petit crédit. Hier, le gouvernement a également mis en consultation son projet de loi sur le crédit à la consommation, une loi attendue depuis très longtemps. La Fédération romande des consommateurs regrette cependant que certaines mesures, telles que la limitation de la durée de l'emprunt, ne figurent pas dans le projet. Si tout va bien, la loi entrera en vigueur en l'an 2000. Elle obligera alors les banques à se renseigner sur la solvabilité de leurs clients. Le sourire de Carla Del Ponte. La Cour pénale fédérale a suivi la procureure générale de la Confédération qui jouait le rôle de l'accusatrice dans le procès de l'inspecteur genevois qui avait transmis des informations confidentielles aux autorités algériennes. Hier, il était condamné à 18 mois de prison avec sursis. Son complice, un agent des services secrets algériens, écope lui de 15 mois également avec sursis.
Autre verdict, celui rendu par la Cour correctionnelle de Genève. Elle a condamné un Valaisan de 36 ans à 6 mois de prison avec sursis.
Il y a 2 ans, lors du fameux défi les militaires qui s'étaient déroulés à Genève, il avait lancé
à 7h10 Gérard Ramseyer, puis à 7h30 Erika de Berpoli, puis Thomas Reuby après 8h, donc ça jeudi, vendredi Carlo Lamprecht et puis Guy Olivier Segond. Vous écoutez donc un programme spécial qui reprend après les informations de 8h, présenté par Marianne Erny, Sylvie Lamblay, Pierre Luyet, Francis Baudère, Daniel Favre et en régie Philippe Messerli.
De la Ligue furent ensuite présentées aux chefs d'État et de gouvernement des différents pays intéressés. Commentaire de Woodrow Wilson, président des États-Unis, à cette date encore pays neutre, je cite « J'ai attentivement étudié vos suggestions, mesdames, et je les considère de loin les meilleures de toutes celles qui ont été présentées jusqu'à aujourd'hui. Au cours de ce congrès de la Haye de 1915, Marguerite Gobat, une Suissesse, lut une lettre. Une lettre écrite par des femmes françaises à leurs ennemies, les femmes allemandes. Personnellement, quand j'ai découvert cette lettre, j'étais très émue. Je pensais que l'histoire se répète. Et je me disais, quand donc accordera-t-on enfin une réelle attention aux gestes des femmes ? Celles et ceux qui ont lu mon livre « La guerre à deux voix » se souviendront peut-être de cette mère israélienne dont le fils avait été tué par les Égyptiens et qui avait écrit elle aussi une lettre de paix à Madame Sadat. « Madame, je cite, par-dessus les camps des hommes, je vous tends la main. » Voici quelques extraits de la lettre des femmes françaises aux femmes allemandes. Je cite, « Femmes françaises, femmes allemandes, on nous a séparées et nous nous retrouvons enfin. Nous à qui les maîtres et les esclaves de la guerre ont prétendu faire un devoir d'être ennemis, nous avons refusé. Nous avons dit non aux mensonges séculaires qui créent la guerre. En ce jour où, pour la première fois, nos mains qui se cherchaient dans la nuit peuvent s'unir, nous voulons redire ensemble ce que nous avons dit de chaque côté de l'effroyable frontière de sang, car ce sont les mêmes paroles, les mêmes pensées, parce que nous sommes les mêmes. » Fin de citation. La réponse de leurs sœurs allemandes, c'est ainsi qu'elles les appellent, serait trop longue à lire ici. Elle est tout aussi bouleversante et peut-être plus violente encore dans sa révolte. Après la guerre, en 1919, la Ligue des femmes pour la paix et la liberté critiquera violemment le traité de Versailles. Ce traité, je cite, « viole les principes sur lesquels les démocraties s'étaient mises d'accord et qui seul permettrait de construire en Europe une paix juste et durable. Ce traité ne crée que discorde et animosité. Il ne pourra qu'amener une nouvelle guerre à l'Europe. » Fin de citation. No comment quand on pense à ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. D'ailleurs, en 1946, lors de la remise du prix Nobel de la paix à Emily Green-Bolge, secrétaire de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, le directeur de l'Institut Nobel remonta le temps. Il évoqua les mesures que la Ligue avait suggérées au temps de la Première Guerre mondiale et il ajouta, je cite, « Il eût été sage en 1919 de tenir compte des propositions de la Ligue des femmes. » Mais rares furent les hommes qui écoutèrent ce que les femmes avaient à dire. Certes, le climat d'alors était trop amer, trop vindicatif, mais par-dessus tout, il y avait le fait que les propositions étaient avancées par des femmes. Les suggestions qui viennent des femmes sont rarement prises au sérieux. Et il conclut, parfois, les hommes seraient bien avisés de faire l'économie de leur sourire condescendant. Fin de citation. 30 ans passèrent sans qu'un seul prix Nobel de la paix soit décerné au féminin. Puis 1976 récompensa Mairead Corrigan et Betty Williams, les Irlandaises qui avaient osé marcher ensemble pour appeler à la paix sur leur pays déchiré, récoltant dans leur sillage plus de 70 000 signatures de femmes catholiques et protestantes. Une petite parenthèse, aujourd'hui, 12 ans plus tard, c'est encore une femme qui se trouve sous les feux de l'actualité pacifiste irlandaise. Sister Anna, un petit bout de femme, un petit bout de religieuse anglicane, qui depuis 1972 déjà n'a jamais cessé de se consacrer à la réconciliation et qui a accompli quelques petits miracles. Car à l'impossible, nous l'a tenu. Elle a d'abord osé l'inosable, si vous permettez l'expression, créer un lieu de rencontre, ce qu'elle appelait la Maison de l'Espoir, sur la frontière même des deux communautés. Et quiconque a visité Belfast, comme moi, cette sinistre ligne de démarcation, peut s'imaginer ce que ça représente. Sister Anna a aussi organisé des colonies de vacances en commun pour les enfants catholiques et protestants, et surtout, encouragée par des mères de famille, elle a créé son rêve, un établissement scolaire mixte. Financé par des dons privés, Lagan College fonctionne depuis 1981. Il affiche complet avec 650 élèves. Son directeur a été menacé de mort. Sister Anna, elle aussi, a été menacée de mort. Et pourtant, Lagan College est toujours ouvert. Pour en revenir au prix Nobel de la paix, en 1979 vint le tour de Mère Teresa, la sainte des bas-fonds de Calcutta, dont tout le monde a entendu parler encore et encore. Articles innombrables, livres, films, conférences. Peut-être est-ce parce qu'il est plus facile de parler de paix charité que de paix politique. En 1882 apparaît finalement Alva Myrdal, suédoise, sociologue, ambassadeur, députée, ministre sans portefeuille, chef de délégation de son pays dans les grandes conférences internationales, et j'en passe. Mais Alva Myrdal, aujourd'hui décédée, fut avant tout l'apôtre du désarmement à l'échelle mondiale, la virulente dénonciatrice de la folie des deux superpuissances, lesquelles, à travers l'arme nucléaire, préparent le crime total. Alva Myrdal appartenait à cette génération charnière qui a connu l'avant et l'après. Car il y a les pacifistes d'avant la bombe, d'avant Hiroshima, et les pacifistes d'après la bombe. Il y a aussi les pacifistes, rares hélas, que j'appellerais les vers dans le fruit, qui ont une fonction officielle et qui agissent à l'intérieur du système. Les autres ne peuvent que suivre la mouvance des mouvements alternatifs multicolores qui ont surgi un peu partout ces dernières années. Nous y sommes. Quittons ici les militantes du temps jadis avec leur guimpe et leur grand chapeau, et aussi les militantes d'aujourd'hui qui vivent quasiment dans l'officialité. Entrons dans le monde des vrais rebelles. Rendons hommage, quoi que nous pensions parfois de leurs excès, à celles qui ne cessent de lutter avec une constance admirable contre la course aux armements. Multipliant boycott, sit-in, désobéissance civile. Consciente qu'à la limite, avec l'effroyable armement moderne, les notions de guerre ou de paix sont dépassées et que c'est de survie qu'il faut maintenant parler, tout simplement. Et pour cela, leur imagination non violente et féminine est sans limite quand il s'agit de refuser les décisions arbitraires des gouvernements. Et ce n'est pas le sérieux des experts en souffrance réunis en congrès internationaux qui vont les rassurer. Voici une phrase parmi beaucoup d'autres de la même eau tirée du rapport de la, je cite, « Conférence d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles ». Lucerne, 1974. Je cite. Nous référons à l'article 23, lettre E du règlement de l'AM de 1899-1907, nous avons accordé une importance particulière à la question de savoir quelle blessure devait être considérée comme superflue et quelle souffrance devait être tenue pour inutile. Fin de citation. Ces militantes ont donc investi les lieux saints des armées, les bases des missiles, les centrales nucléaires, dans le froid, le chaud, la pluie, la neige, l'inconfort. Elles ont campé à Greenham Common en Angleterre, à Cold Bay au Canada, à Hasselbach en République fédérale allemande, à Camiso en Italie, à Seneca aux États-Unis, etc., etc. Les actions de ces femmes passent le temps d'un flash télévisé, mais elles ne passent pas à la postérité. En tout cas, pas à la postérité immédiate, si j'ose dire. On les occulte rapidement. Elles dérangent vraiment trop. Prenons par exemple ces pacifistes américaines qui prirent d'assaut sans violence le Pentagone. Quartier général, je cite, « de la violence des hommes » et lieu de planification de la destruction du monde, fin de citation. C'était en 1982, elles étaient 2000, organisées dans la désorganisation, comme seules les femmes savent l'être, avec la fantaisie au pouvoir. La manif se déroula comme une pièce en quatre actes. Premier acte, qu'elles intitulèrent « Le deuil », portant un grand mannequin représentant une femme entièrement vêtue de noir, les 2000 femmes, accompagnées par le battement lancinant d'un tambour, traversèrent lentement l'immense cimetière militaire d'Arlington, où des croix blanches alignées au cordeau s'étendent à perte de vue. Puis elles avisèrent un peu plus loin un coin de gazon qu'elles baptisèrent leur cimetière. le cimetière des femmes. Dans ce lieu improvisé, symbole de la mort des femmes, et nous savons qu'il y a tant de façons de mourir, elles dressèrent une pierre tombale dédiée non pas au soldat inconnu, mais à la femme inconnue. Deuxième acte qu'elles intitulèrent « La révolte ». Après avoir habillé le mannequin d'un tissu rouge, rouge couleur du sang, les militantes avancèrent vers le Pentagone en criant « Plus de guerre, plus d'armes, enlevez leurs armes à nos enfants ». Troisième acte, l'encerclement. Se tenant par la main, les 2000 femmes formèrent un cercle autour du Pentagone. Puis elles entonnèrent le chant des Noirs américains, « We shall overcome », suivi de leur propre chant de femmes, de féministes, de pacifistes. Quatrième acte, et c'est là que les choses se corsent, la provocation. Les femmes se couchèrent devant les portes du Pentagone, selon les méthodes de la non-violence et de la résistance passive. Mais surtout, et c'est là l'originalité de leurs gestes, elles les rendirent infranchissables, ces portes, en dressant devant leur seuil des barbelés. Mais des barbelés pacifistes. Une sorte de gigantesque tricotage fait de cordes, de ficelles et de laine. Son symbole, je cite ces femmes, « un filet dans lequel nous aurons emprisonné au moins pour un moment ces décideurs du Pentagone qui, avec leur folie, risquent de nous enterrer tous. » Fin de citation. Précisons que pour avoir voulu contrer la machine de guerre américaine avec trois bouts de ficelle, c'est le cas de le dire, beaucoup de ces femmes furent arrêtées et certaines mises en prison. Autre action. Celle-ci se passe au Japon, au pied du célèbre mont Fuji. C'est une histoire de femmes, de militaires et de terre. Ici, les militaires ont construit une base sur la terre nourricière d'un groupe de femmes dont elles constituaient la seule et unique survie. Tout comme cela fut d'ailleurs le cas pour leurs ancêtres depuis le 7e siècle. Ces paysannes très pauvres, traitées il n'y a pas si longtemps encore, comme on ne traite même pas la poussière, ce sont leurs propres paroles, font preuve d'un courage et d'une endurance extraordinaires. Depuis des années et des années, elles se battent presque à main nue contre l'armée pour récupérer leurs terres. Peau de terre contre peau de fer, c'est vraiment le cas de le dire. Rien ne les arrête. Leur harcèlement continue. Surgissant par exemple sur le terrain de tir en pleine manœuvre, elles plantent des épouvantails un peu partout, ce qui déboussole complètement les soldats qui ratent leur cible, etc., etc. Si j'ai choisi de vous parler de ces femmes du mont Fuji, ce n'est pas par hasard. C'est pour souligner ce que leur expérience leur a asséné, à savoir que le militaire, c'est la violence. La violence faite à la terre, la violence faite à la vie. En 1981, une journaliste étrangère, une pacifiste engagée, est venue interviewer ces femmes. Et voici ce que l'une de ces paysannes en chapeau pointu, j'ai vu les photos, en sabots, le visage tanné comme une vieille pomme et les mains calleuses, lui a déclaré. « Ma sœur venue de si loin, nous avons compris que nous sommes nous aussi un maillon de votre chaîne. Nous aussi, à notre façon, nous luttons pour la paix. » En passant, ces paysannes japonaises n'ont pas toujours été bien reçues, inutile de le dire. Eh bien, ce genre d'accueil, le Japon, inutile de le dire non plus, n'en a pas l'exclusivité. M'étant personnellement exprimé publiquement contre l'installation d'une place d'armes dans les marais de Rotenturm lors des récentes votations, j'eus le plaisir de trouver dans ma boîte aux lettres ces quelques mots tapés sur une machine à écrire des plus anonymes, je cite, « Pauvre idiote, tu déshonores ton nom. Parlant du respect de la nature, tu seras bien contente quand tu auras des Russes sur le ventre. » Je sais que je ne suis d'ailleurs pas la seule à avoir reçu à cette occasion un billet doux de cet acabit. À propos de Russes, enfin, à propos de l'Union soviétique et des pays de l'Europe de l'Est en général, je sais, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Ce n'est bien sûr pas par négligence, mais parce que les mouvements pacifistes dans le sens où nous l'entendons, c'est-à-dire indépendants de l'État, eh bien ces mouvements pacifistes là-bas sont très discrets, comme on peut le comprendre. Et je me souviens notamment me trouver à Plovdiv, en Bulgarie, lors d'un grand défilé qui avait lieu à l'occasion de la commémoration de la révolution d'octobre. Et il y avait naturellement des femmes et des hommes qui défilaient très officiellement avec leurs colombes en carton. Et une dame est venue vers moi, voyant très bien que j'étais une étrangère, elle m'a dit « Dites-moi, chez vous, est-ce qu'on a le droit de manifester pour la paix ?» Bon, ces mouvements pacifistes, comment nous les sentons ? Ils existent néanmoins, certainement, nous le savons. Et le rêve de beaucoup de femmes et d'hommes de chez nous serait justement de pouvoir connaître, enfin, de pouvoir collaborer avec celles et ceux qui, de l'autre côté, pensent et sentent comme nous. Liberté d'expression, de communication, de réunion, ce sont ces articles-là de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on vient de fêter avec force festivité le 40e anniversaire. Ce sont ces articles-là que nous souhaitons ardemment voir appliqués enfin là-bas. Est-ce une utopie ? Il nous semble justement que ce là-bas, à la fois si proche et si lointain de nous, par sa culture et par son histoire, nous laisse entrevoir depuis quelque temps une lueur d'espoir. Pourrons-nous enfin dialoguer ? Car sans dialogue au niveau individuel, le dialogue où l'on voit le vrai visage de l'autre, pas un visage déformé tel que le montre la propagande. Sans dialogue au niveau des gens, la paix reste fragile, très très fragile. Et veuille qu'il ne faille pas un tremblement de terre comme en Arménie pour que nous nous rapprochions les uns des autres, pour qu'on ouvre les frontières. Parlant d'Arménie, puisque ce soir notre thème était les femmes et leur désir de paix, je voudrais vous lire pour terminer quelques lignes qui m'ont bouleversée. Elles sont tirées d'un livre dans lequel la sœur de Charles Aznavour raconte le drame des familles arméniennes que les guerres et la politique ont séparées dans les années 20, en l'occurrence entre l'URSS et la France. Tous les généraux, tous les présidents, tous les idéologues qui à travers le monde déplacent, déportent, séparent les familles et quelquefois pour toujours, devraient méditer cette phrase. Elle n'est pas née de l'imagination d'un poète, ni de l'indignation d'un tribun, mais sous la plume d'une mère, une mère comme toutes les autres mères. Son fils avait 2 ans quand ils furent séparés. Il grandissait chez sa tante à Paris, une tante à qui la mère écrivait. Son fils était alors un adolescent. « Envoie-moi une chemise sale de Micha, que je sente son odeur. Voilà. »
Wie viele Mitarbeiter und Sie haben vorhin schon das angedeutet für die oberste Leitung. Wie viele Kurstage pro Jahr ist der Index Vorgesetzte in der Führungsausbildung?
Also die Mitglieder der Schweizerischen Bankgesellschaft sind im Durchschnitt 13 Tage in der Ausbildung, 11 Tage im Militärdienst und 14 Tage krank. Oder in Ferien. Wir haben seit 2 Jahren erstmals mehr Ausbildungstage als Militärdiensttage. Ich betrachte das als eine unerfreuliche quantitative Ausdehnung. Es ist damit zu wenig Qualität in unserer Ausbildung und zu viel Bildungstourismus. Ich bin verantwortlich für die Ausbildung von 18.000 Mitarbeitern. Es interessieren mich 2 Kategorien. A, die Lehrlinge. Und diejenigen, die umgeschult werden, dafür stehen 8 Schulen in der Schweiz zur Verfügung und einige Ausbildungsinstitutionen im Ausland. Und noch mehr interessiert mich die Kaderausbildung. Dafür steht 1 Ausbildungszentrum zur Verfügung mit einer Außenstelle, die familiärere Ausbildung erlaubt. Und im Aufbau ist eine neue Ausbildungsstätte für kleine und mittlere Unternehmungen, die stärker ausgerichtet ist auf die Begegnung und weniger auf die Schulung. Es ist also eine sehr vielfältige Ausbildungseinrichtung für die Kaderausbildung. Ich weiß eigentlich nicht, wie viel wir dafür ausgeben. Ich kann nur Folgendes sagen, eine Firma, die eine halbe Milliarde Franken Reingewinn ausweist, kann mehr Geld ausgeben für die geistige Nahrung als für die körperliche. Vorläufig geben wir mehr aus für unseren Kantinenbetrieb Kulinarium als für meine Schulung. Und solange das so ist, habe ich keinen Grund, irgendwo Restriktionen zu sehen. Aber wenn Sie eine Summe haben wollen, ich führe ein Zentrum, das mit Leichtigkeit ein Profizentrum sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass es eine Schule dieser Welt gibt, die ohne Betriebsbeitrag auskommt, es sei denn, es seien nur persische Prinzessinnen als Schülerinnen da. Und demzufolge weise ich jedes Jahr seit 10 Jahren ein Defizit von 3 Millionen aus. Und ungefähr bei diesem Betrag lasse ich es. Und das erlaubt mir, mich primär der Bildungsaufgabe zu widmen und nicht der Buchhaltung. Es ist relativ komplex, weil die wichtigsten Dozenten sind diejenigen, die erfolgreich sind an der Front. Wenn der erfolgreichste Devisenhändler stotternd und zaghaft seine Irrtümer und Weisheit verkaufen kann, ist mir das wesentlicher, als wenn ein 7-mal gescheiter Professor kommt. Denn er ist der glaubwürdigste. Und darum habe ich vielleicht 500 Dozenten, die sind Praktiker, die eine Stunde oder einen halben Tag oder eine halbe Woche kommen als Dozenten. Es stehen externe Kräfte zur Verfügung, hauptsächlich aus den Universitäten St. Gallen, Konstanz und Zürich. Und es ist ein permanenter Stab von vollamtlichen Dozenten da. Es sind 10 Dozenten, ein Psychologe, ein Soziologe, ein Betriebswirtschaftler, ein Volkswirtschaftler, ein Medienfachmann, ein Naturwissenschaftler, ein Geisteswissenschaftler. Aber allesamt, würde ich sagen, keine pädagogisch deformierten Schulmeister, sondern Menschen aus dem Leben gegriffen, die bereit sind, mehr zu tun, als die Ferien abzuwarten.
Ja, ich glaube, die Zeit ist so vorgeschritten, dass wir eine Pause verdient haben. Wir würden uns um 15:15 Uhr